cet amour que tu as manifesté envers nous en la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Merci parce que par cet amour, tu as déversé en nous ton esprit, esprit par lequel nous pouvons t'appeler Père. Et nous te remercions encore pour ce jour que tu nous donnes, pour ces instants précieux où nous pouvons ensemble, en tant que ton Église, ouvrir ta parole. Et je te prie que tu nous enseignes par ton Esprit Saint, que tu illumines notre intelligence, que tu ouvres les yeux de notre cœur afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Nous prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Je vous invite à prendre une fois de plus votre Bible dans Matthieu chapitre 13 pour la dernière parabole, semble-t-il, hein, même si parfois certains appellent quelques versets plus loin encore une parabole. Et nous allons lire la parabole du filet. Donc Matthieu chapitre 13, et nous allons lire la parabole du filet. Alors, j'espère que mes notes n'ont pas disparu, là, j'essaie de retrouver ça. Voilà, donc Matthieu 13, 47 à 51. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ?
Oui, répondirent-ils. Avez-vous compris toutes ces choses ?
C'est la question que Jésus a posée à ses disciples, à ces personnes, à la fin de toutes ces paraboles qu'il a racontées. Est-ce qu'on se rappelle des paraboles qu'il a racontées ? La première, c'était la parabole du semeur, des terrains et des quatre terrains, la parabole du semeur. La seconde, c'était les mauvais ouvriers, c'est ça ? Non, il y avait l'ivraie, c'était l'ivraie plutôt ? L'ivraie et le bon grain. Après, le grain de sénévé et le levain. Après, trésor et la perle de grand prix. D'accord ? Et puis, là maintenant, c'est la parabole du filet. D'accord. Et puis Jésus demande à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses ? Et ils disent, oui. Hein ? Vous avez compris toutes ces choses. Jusqu'à présent, tout le monde n'est pas sûr d'avoir tout saisi ce que Jésus a dit ici. Et même les gens qui étudient profondément disent, bon, ce que Jésus a expliqué, c'est clair, ce qu'il n'a pas expliqué. Parfois, il y a des avis qui divergent sur le sens que pourrait avoir. Donc, c'est dire que ça n'est pas forcément, tout n'est pas forcément très, très clair, hein, pour la compréhension, puisque la parabole, c'est ça la particularité, c'est que ça cache pour une certaine partie et ça révèle pour d'autres. Mais heureusement, le Seigneur donne souvent les explications qui nous permettent de comprendre cela. L'image qui est utilisée ici, hein, et n'est pas difficile à comprendre. Tout le monde comprend, les enfants comprennent ça, hein, même s'ils ont toujours vécu à Paris, à Saint-Denis, un pêcheur avec son embarcation, je pense que c'est une image que tout le monde connaît, même dans les classes, hein, avec les images parfois, hein, on montre Jésus dans une barque, et puis les pêcheurs, les filets, le poisson. Donc c'est une image qui n'est pas très difficile à comprendre, qui n'a jamais vu un marin pêcheur rentrer sur une côte avec du poisson dans son... Ça résonne un peu, non ? Le micro, c'est un peu trop... Il faut enlever de l'écho. Peut-être le gain, là, il faut le baisser. C'est trop... Ouais. Qui n'a jamais vu comment dirais-je, une embarcation avec des poissons, un pêcheur qui rentre, marin pêcheur qui rentre? Qui n'a jamais vu ça? Qui a déjà vu ça? En vrai, de ses yeux vus. Hein? Il y en a quelques-uns qui n'ont pas vu quand même. Hein? D'accord? Donc c'est pas grave. Donc vous n'avez, qui a déjà tenu dans les mains un filet, une senne de pêcheur et qui a tiré du poisson. Hein? Les vieux comme Jean-Pierre, ils ont fait ça. D'accord? Nous on a fait ça. Moi j'ai fait ça aussi hein, aux Antilles. Hein? On fait ça. Il y a une petite commune qui s'appelle les Anses d'Arlet. Hein? Et c'est bien pour faire ça, où il y a tous les gens, les touristes sur la plage, les baigneurs qui, vers la fin de la journée, les pêcheurs ramènent les filets et puis ils tirent, il faut tirer, tirer, tirer pendant plusieurs minutes. Et puis pour ramener tout un tas de poissons dans le filet. Hein. Et puis des fois on arrive et puis il y a quoi? Il n'y a pas beaucoup. Parfois il y en a un peu plus. Mais il y a des choses qu'on prend et puis des choses qu'on remet à l'eau parce que ça c'est pas intéressant, c'est pas bon. Et puis on garde ce qui est bon, ce qui est le plus comestible. Donc c'est une image qui n'est pas très difficile à comprendre ici que Jésus prend et elle est particulièrement parlante pour des gens qui vivaient à cette époque-là et puis les disciples qui eux-mêmes étaient des marins pêcheurs. Hein. Et donc il explique très facilement que c'est une image qui pourrait refléter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est comme un filet, dit-il, qui est jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. D'accord? Donc le filet ramasse tout ce qui vient, il drague tout ce qu'il y a jusque sur le rivage, on pourrait dire jusque dans la présence là des pêcheurs, de tout le monde. Et puis ensuite, il dit, quand le filet est rempli, les pêcheurs, ils le tirent, bien sûr. Et après, ils s'assoient avec d'autres pêcheurs, probablement sur le rivage, même ceux qui n'étaient pas dans les embarcations, et commencent le tri. Et je regardais sur Internet, j'ai tapé tri de poissons, et il y a beaucoup d'images où vous voyez des gens sur les rivages avec des vases, encore aujourd'hui, hein, tri de poissons par taille, par qualité, etc. Retenir ce qui est bon, il y a ce qui va partir dans les restaurants probablement, ce qui est de meilleure qualité, et puis ce qui est de moins de qualité, ça va être distribué à d'autres, et peut-être même d'autres complètement jetés ou remis, utilisés pour faire des appâts, pour attraper d'autres choses. Hein. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec. Et Jésus, bien sûr, donne l'explication de cette parabole, enfin, il ne donne pas une explication détaillée en disant. Le filet, c'est ceci, le pêcheur, c'est cela, mais il fait une conclusion à partir de cette parabole. Cette parabole est similaire à une autre qu'on a vue. Est-ce que vous voyez laquelle? L'ivraie et le bon grain. Si je vous relis l'ivraie et le bon grain, regardez l'ivraie et le bon grain. Donc c'est en Matthieu chapitre 13, bien sûr. Et c'est à partir du verset 24 qu'il dit, leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé, donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant, vous déraciniez aussi le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Et quand il donne l'explication au verset 36, il dit, 37, il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils, le champ, c'est la fin du monde, c'est le monde, pardon, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges, d'accord? Et puis ensuite, il dit,
Or, comme on arrache l'ivraie qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vraiment, ce qu'il dit en conclusion, ça ressemble vraiment comme deux jumelles, enfin, comment faudrait dire, à ce qu'il a dit ici. Hein. Si vous regardez, il est question des anges qui moissonnent ici. Et dans la parabole qu'on regarde ce soir, il est question des pêcheurs, mais il en est ainsi à la fin du monde où les anges vont faire une... Quoi ? Un trier. Et puis, il dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Et là, il dit la même chose. Il en sera de même à la fin du monde, ici. Il parle de fournaise ardente, ici, au verset 42 et au verset 50. Il dit « Ils la jetteront dans la fournaise ardente ». Il parle de pleurs et de grincements de dents. Et ici, il parle aussi où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Okay. Donc, on pourrait dire qu'il dit la même chose, pratiquement la même chose. Il y a peu de choses qui diffèrent dans ces deux paraboles que Jésus donne. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il donne une autre parabole dans laquelle il dit pratiquement la même chose, même si l'image n'est pas tout à fait la même. On pourrait dire que la parabole du filet ne semble pas apporter vraiment beaucoup d'éléments nouveaux. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne cette parabole? Et probablement, pense beaucoup pour insister sur une vérité. Et souvent, quand on a besoin d'enfoncer quelque chose, on répète quelque chose qui est important. Et je pense que ce qui est dit dans ces deux paraboles, qu'on n'a pas forcément vu quand on a vu le bon grain et l'ivraie, il y a quelque chose qui est très important que Jésus souligne ici et qui a trait avec la fin du monde, avec ce qui va arriver. Dans les deux paraboles, il souligne véritablement cela. Il dit ici, il en sera ainsi à la fin du monde. Et c'est quelque chose qui interpelle dans les deux paraboles. Quand on lit ça, il dit, il en sera ainsi à la fin du monde. Et quand Jésus dit ça, ça n'est pas comme quand un scientifique dit, par exemple, que dans 5 milliards d'années, le soleil va s'éteindre, par exemple. Je ne sais pas quelle impression ça vous fait, mais dans 5 milliards d'années, le soleil va s'éteindre. Mais Jésus dit, il faut dire 5 milliards d'années, peut-être ça arrivera, peut-être il se trompe, peut-être il ne se trompe pas, le scientifique. Vous pouvez penser ça, je veux dire. Okay. Mais après tout, vous dites 5 milliards d'années, c'est quoi ? Quand je vis maximum 70 ans, 5 milliards d'années, c'est quoi ? C'est loin, d'accord ? Mais quand Jésus dit, attention, il en sera ainsi à la fin du monde, il y a quelque part une idée de quelque chose de proche qui est dans ce qu'il dit, de proximité, d'imminence, dans ce qu'il dit, qui frappe, qui saisit. Et il le dit deux fois. Il dit, attention, il en sera ainsi à la fin du monde. Et il interpelle vraiment l'homme, le pécheur qui lit, qui entend. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'était dans quelle parabole, je crois que c'était dans la parabole de l'ivraie, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire, attention, ce qu'il dit là, ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut ranger dans des milliards d'années, dans quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est d'une extrême importance et qui est une proximité aussi. Et donc, c'est vraiment, je pense, important de considérer cela. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas comme quand on parle de milliards d'années d'extinction du soleil, ni quand les hommes parlent de catastrophe, de réchauffement climatique. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, on parle de la planète, de choses comme cela qu'il faut faire, etc. Mais Jésus, ici, quand il parle de fin du monde, il parle d'un événement, de choses qui sont extrêmement dramatiques et qui touchent à l'éternité de chaque individu. C'est pas juste la fin d'un individu. Voilà. Quand on parle de réchauffement climatique, de cataclysme, on parle de, voilà, il faut préserver les choses parce que sinon, il n'y aura plus rien. On va plus pouvoir vivre, on va laisser une planète sale à nos enfants, enfin bref, tout un tas de choses comme cela. Mais Jésus, quand il parle de cela, il dit, il y a un problème, non pas pour votre fin, votre mort ici, il y a un problème pour votre éternité à venir. C'est ça qu'il souligne quand il parle de la fin du monde. Et c'est autrement plus dramatique que de parler de cataclysmes climatiques à venir. D'accord ? Il parle vraiment de l'individu proprement et de son éternité. Donc c'est extrêmement important quand Jésus dit cela. Il parle de fournaise, il parle de pleurs, il parle de grincement de dents. Il ne parle pas de boum, fin de toute chose. Il parle de douleur et de souffrance. Donc c'est quelque chose qu'il faut méditer ici. Et sans doute la répétition de cette parabole, quand on l'a mis à côté de la parabole de l'ivraie, a pour effet d'interpeller l'auditeur fortement sur la fin, sur la consommation de toutes choses, sur les temps derniers, etc. Sur ce qui va venir et va sceller définitivement l'avenir spirituel de chacun. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette parabole, enfin, dans ce qu'il avance? Il dit que à la fin du monde, je relis ce qu'il dit au verset 50, il dit, « Il en sera ainsi à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Il dit qu'il y aura une séparation qui va se faire. Il dit, maintenant, ça ne se voit pas. Il y a du mélange partout. Hein. Le filet, il tombe et ramasse tout. Là-dedans, il y a du bon poisson et du mauvais poisson. Mais le bon poisson n'est pas destiné à rester avec le mauvais poisson. Un jour viendra où les anges de Dieu, pas les hommes, les anges de Dieu feront le tri. Et séparer, ça veut dire, c'est écarter quelque chose, ici le sens, en détruisant le lien, en détruisant tout lien entre ces deux choses. Il n'y aura plus du tout de lien entre les deux. Alors ça vous rappelle la parabole que nous avons lue ce soir, avant de prier, dans Luc chapitre 16, n'est-ce pas? Mais avant de la regarder, la parabole des 10 vierges, vous vous rappelez la parabole des 10 vierges? Qu'est-ce que Jésus montre? En Matthieu 25, verset 10, il dit, il y avait 10 vierges, on ne va pas relire tout ça, mais il y avait 10 vierges, elles attendaient toutes l'époux, et puis il y en avait 5 qui avaient pris de l'huile avec elles, et puis 5 qui n'en avaient pas, on appelait les 5 folles, hein, 5 sages, 5 folles, et puis il dit, pendant qu'elles attendaient, elles s'endorment, l'époux vient, subitement, il arrive, voici l'époux, celles qui avaient de l'huile ont pu raviver leurs lampes, elles sont entrées dans la salle des noces avec l'époux, et puis celles qui n'avaient pas ont couru partout les villes pour essayer de trouver de l'huile, mais quand elles sont revenues, la porte était fermée. Une séparation définitive, parce qu'elles ont toqué pour que la porte s'ouvre et elles se sont entendues dire qu'elles ne sont même pas connues. D'accord ? Jeter dehors. Matthieu chapitre 25, verset 31, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il dans la gloire, viendra dans sa gloire avec tous les anges, donc on a l'idée des anges ici qui l'accompagnent. Verset 31-33, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Et puis après, il peut raconter encore d'autres choses qu'ils font. Dans la parabole de, juste quelques-unes comme ça, mais la parabole de Luc que nous avons lue, lorsque le riche, c'est intéressant que tout à l'heure ça m'a sauté à l'esprit, Jésus raconte quand il est dans le lieu de tourment, il est toujours appelé le riche. Hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est appelé le riche, voit, hein, toujours. Hein, et il dit, envoie Lazare qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau qu'il me rafraîchisse, etc. Et Abraham répond, tu as eu des biens pendant ta vie sur la terre, maintenant Lazare a eu les maux, il est dans la félicité, maintenant toi tu souffres. Et puis il dit d'ailleurs, verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous, quoi, un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il dit, même s'il arrivait que par, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, que par affection ou quelque chose, j'en sais rien, il y en a un qui décide d'aller là-bas, c'est même pas possible, c'est possible, c'est impossible. Il y a une séparation, il n'y a aucun lien, il n'y a plus du tout aucun lien. Donc il y a une séparation définitive qui est faite. Et c'est ça que le sens de séparer contient. Hein. Il trie, il sépare, mais ce n'est pas juste, il met là et puis après ils vont se retrouver. Non, non. Il établit une rupture franche, définitive, permanente et éternelle. Et on ne pourra jamais, jamais, jamais revenir sur cette séparation. Ça, c'est une chose. Mais plus terrible encore, il dit, il sépare donc les justes d'avec les méchants et ils, verset 50, jetteront dans la fournaise, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus parle ici du sort terrible, absolument terrible, qui atteindra les méchants. La fournaise ardente. Alors, ce sont des images, parfois, je pense, hein, que Jésus donne, mais c'est pour montrer, je pense, le côté extrêmement terrible de cette situation. Et Jésus, comment je vais dire, il rappelle encore une fois le sort qui va, comme il l'a fait dans la parabole de l'ivraie, le sort qui va atteindre ceux qui ont refusé de le suivre. Ceux qui ont refusé de le suivre, ou ceux qui ont fait semblant de le suivre. Ou ceux qui ont fait, qui ont montré, voilà, ce qui ne lui appartenait pas vraiment. Et vous rappelez-vous, dans tout ce que Jésus raconte, dans Matthieu chapitre 7, quand il parle de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », il dit à la fin « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait quoi ?» Chasser des démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont fait toutes ces choses. Et Jésus ne dit pas, non, vous ne l'avez pas fait. Il ne nie pas qu'ils ont fait ces choses. Il nie simplement le fait qu'ils aient été connus de lui, qu'ils aient jamais eu entre eux une relation. Une relation. Et ça nous fait réfléchir beaucoup. Hein. Ce n'est pas juste le fait de prêcher, même ici derrière un pupitre, qui est quelque chose. Ce n'est pas le fait d'être assis en face qui est quelque chose. Ce n'est pas le fait d'assister tous les dimanches dans un culte quelque chose. C'est le fait d'avoir une relation, d'être connu vraiment de Jésus-Christ ici. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas dire aux gens quand on prêche l'évangile. Qui c'est qui aime parler du châtiment, de l'enfer? Parce que ce que Jésus parle ici, c'est de l'enfer. Hein. L'enfer qui vient d'un mot qui infernus, je crois, hein, qui veut dire infernus, je ne sais plus comment il faut le dire, hein, mais qui veut dire région basse. Hein, c'est les régions inférieures. Hein, ça vient de ce mot-là. Hein, les ténèbres, les lieux bas, quoi, du gouffre, les abîmes. Hein, un peu, c'est un peu ce sens. Hein. Je disais donc, c'est quelque chose que l'on n'aime pas dire et dont on n'aime pas parler. Pourtant, Jésus, il l'a fait. Il a parlé de cette... Quand on annonce l'évangile, c'est des choses qu'on en a peut-être plutôt tendance à cacher, pas forcément à cacher, mais peut-être à passer un petit peu vite dessus, parce que c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et si quelqu'un disait, si Jésus ne l'avait pas dit, il dit, heureusement que c'est Jésus qui a dit ces choses, et pas un prophète. Il dit parce que si Jésus ne l'avait pas dit, on aurait du mal
à présenter ça même aux gens. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament leur paraît terrible avec un Dieu qui châtie, qui menace, qui renverse. Tandis que le Nouveau Testament semble être un recueil d'amour. Jésus qui dit « Aime ton prochain comme toi-même. Si ton ennemi te frappe sur la joue gauche, tourne, donne-lui la droite. » Qui dit « Aime ton ennemi. » Il dit « Aimez-vous les uns les autres. » Il y a des gens qui disent « Aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, hein, le feu qui tombe, etc. Dieu qui menace le déluge, le feu qui tombe sur Sodome et Gomorre. Il dit « C'est un Dieu qui est terrible dans le Nouveau Testament. » Dans l'Ancien Testament, pardon. Mais quelqu'un faisait remarquer que, en fait, le problème, ce qui fait que les gens pensent comme ça, c'est parce qu'ils ont davantage peur des cataclysmes extérieurs, des tremblements de terre, des choses, des grandes catastrophes qui peuvent arriver, que de l'enfer, tout simplement, de ce que la Bible appelle comme châtiment. Jésus est celui qui a le plus parlé de l'enfer. John MacArthur souligne ceci, je vais vous lire ce qu'il dit. J'avais déjà entendu cela aussi, mais il dit « Jésus parle plus souvent de l'enfer que n'importe lequel des prophètes et des apôtres le fera. Peut-être parce que son horrible vérité serait tout à fait impossible à accepter si le Fils de Dieu ne l'affirmait lui-même avec fermeté. » Il ajoute, du début à la fin de son ministère terrestre, Jésus en parle avec insistance dans ses enseignements. Il en dira plus au sujet de l'enfer qu'au sujet de l'amour. Tous les gens qui disent, ah, Jésus, c'est le prophète de l'amour. Oui, c'est vrai. Mais il est celui qui parle le plus de l'enfer. Il en parle plus. Qu'au sujet de l'amour. Et il ajoute que pour que tous les autres enseignants de la Bible, plus que tous les autres enseignants de la Bible combinés, il fera des mises en garde contre l'enfer en ne promettant aucun moyen d'y échapper à ceux qui refuseront son offre de salut empreinte de grâce et d'amour. C'est ce que Jésus enseigne quand on lit l'Écriture ici. Jésus parle de fournaises ardentes. Il ne dit pas, bon, ils ne seront pas bien s'ils ne se tournent pas vers moi. Il parle de choses terribles. Il parle de feu de la géhenne. Il parle de châtiment de la géhenne. Il parle de ténèbres du dehors. Il parle de feu éternel. Il parle de tourment, pour ne citer que quelques exemples de ce que Jésus dit, hein, ici. Tourment, feu éternel, géhenne, ténèbres du dehors, châtiment, le feu qui ne s'éteint point, le ver qui ne meurt point. Et dans cette parabole que nous avons, Jésus décrit l'enfer ici comme, on le voit bien, comme un lieu de souffrance. Il dit un lieu où il y aura quoi ? Des pleurs et des grincements de dents. Ici, hein. Alors, parfois dans la Bible, les grincements de dents peuvent être utilisés de différentes manières. Hein. Job parle en Job chapitre, je crois que c'est 16-9 ou 9-16, je ne sais plus, hein, où il parle de Dieu qui est contre lui et qui grince des dents contre lui. C'est-à-dire, quelque part, comme s'il parle de Dieu qui grince des dents. Hein, on peut trouver cela. Hein. Et puis, c'est souvent utilisé comme image parfois de personnes qui se révoltent un peu. Hein. Ils grincent des dents dans le livre des Actes, hein, acte 7, devant le Sanhédrin, lorsque Étienne a comparu, il est dit que les gens du Sanhédrin, ils grinçaient des dents contre lui. Ils étaient furieux, ils grinçaient des dents. C'était vraiment grince des dents de colère. Aussi. Mais ici, il y a une association pleurs et grincements de dents qui laisse penser à une terrible douleur, quoi. Terrible souffrance. Et cette souffrance, elle apparaît clairement dans tout ce que Jésus enseigne concernant le châtiment éternel et concernant l'enfer ici.
J'ai entendu des personnes répondre à la question « Qu'est-ce que l'enfer selon vous ?» J'écoutais hier, je suis tombé sur un site, sur France Culture, où la question c'était, on parlait de l'enfer. Ils ont interviewé beaucoup de personnes comme ça. Et j'ai tenu ma tête entre mes deux mains, j'ai dit non, mais c'est pas possible qu'on puisse penser ainsi. Il y a des gens qui prennent cela avec une légèreté et qui pensent que ça existe, mais que finalement, ça vaut peut-être mieux que d'être au paradis. Parce que le paradis, ça risque d'être ennuyant. Tout le monde serait sage. Tandis que là, on pourra quand même voler sans que... Voilà, tout le monde vole de toute façon, on va voler et puis ça ne sera pas si terrible que ça. Donc on sera peut-être plus naturel, il sera peut-être plus facile de faire des choses naturelles. Ce sera un lieu où on va faire ce qu'on a envie de faire, d'accord ? Ok, on ne sera pas sage, mais on fera ce qu'on a... On ne sera pas gentil les uns avec les autres, mais après tout, on est déjà habitué à ça sur la Terre. Et puis il y en a d'autres qui pensent que l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis, oui. Hein? C'est un peu la théorie du « on ira tous au paradis hein, », comme avait chanté ce chanteur. Et j'ai lu quelques paroles, après j'en ai fermé, parce qu'il y en a de ce chant, où il est dit, même les brigands, même les bandits, même les... Enfin bref, on ira au paradis. Qu'on en croit en Dieu, qu'on n'en croit pas en Dieu, on ira au paradis. On prend ça à la légère. On prend ça à la légère. Mais Jésus dit que c'est un lieu de souffrance terrible. Et dans cette parabole, et dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, la souffrance est ce qui est mis quand même en évidence. Le riche dit, je souffre comment ? Cruellement. Et Abraham dit, tu as eu tes biens sur la terre et maintenant tu souffres. Donc de son propre aveu, il souffre et de l'aveu d'Abraham, il souffre aussi. C'est pas juste une vue de l'esprit qu'il a, c'est pas juste un sentiment personnel qu'il a. Il souffre cruellement, il est conscient qu'il souffre et Abraham dit, tu souffres. Tu souffres. Et donc, il est important de considérer la parole de Dieu comme elle est, ne pas atténuer ces choses. C'est peut-être probablement pour ça que Jésus le répète. Il dit, il annonce la parole, les Juifs ne veulent pas écouter cette parole, ils commencent à parler en parabole, mais il termine en disant, attention, tout ce que je vous ai enseigné là, si vous ne les recevez pas, voilà ce qui arrive à la fin. Voilà ce à quoi vous êtes confrontés à la fin. Le grand auteur et prédicateur puritain John Bunyan. Hein, vous avez lu les livres de John Bunyan. Donc, dans un commentaire, on rapporte ce qu'il dit, ce qu'il a écrit. Il écrit ceci, il dit « En enfer, tu n'auras d'autre compagnie que celle de damnés et d'innombrables diables. Tandis que tu es ici-bas, la seule pensée de voir le diable t'apparaître te fait trembler et dresser les cheveux sur la tête. Toutefois, oh, que feras-tu lorsque non seulement le diable t'apparaîtra, mais la véritable société de tous les diables de l'enfer se retrouvera avec toi, hurlant, rugissant, criant à tue-tête, de manière tellement hideuse que tu ne sauras plus que faire et que tu seras prêt à te remettre à courir, fou d'angoisse et de tourment. Si après 10 000 ans, la fin devrait arriver, il y aurait une consolation à espérer. Mais combien y seras-tu misérable, car tu devras y rester pour toujours. Lorsque tu verras en quelle compagnie d'innombrables diables hurlants tu seras, tu te rediras, voilà mon sort pour toujours. Lorsque tu auras été en enfer pendant autant de milliers d'années qu'il y a d'étoiles dans le firmament, de gouttes d'eau dans l'océan ou de grains de sable sur les plages, tu devras encore y vivre pour toujours. Oh, ce mot « toujours », combien il tourmentera ton âme. C'est une manière de dire les choses, un peu particulière à John Bunyan, mais c'est une manière de souligner quand même ce côté éternel et douloureux de souffrance que Dieu, que le Seigneur Jésus décrit
ici. Donc, il est important de ne pas passer ça comme sous silence, comme si de rien n'était. Chaque fois qu'on pense, qu'on lit la parole, on doit penser à cela. Qu'est-ce que ça doit impliquer chez nous? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? On peut voir déjà ici que personne n'échappera au tri. Personne. Le filet, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, il ramène et il trie. Il y aura les bons et les méchants. Il y aura les justes et les injustes. Mais les justes et les injustes participeront au tri. Personne n'échappera au tri. Ça, c'est une chose. Le filet est jeté et ramène tout sur le rivage. Les vivants et les morts. Et Jésus le dit, hein, qu'il a été désigné par Dieu pour juger qui? Les vivants et les morts. Même ceux qui sont morts n'échapperont pas. Apocalypse dit que les morts ont rendu, la mer a rendu les morts qui étaient en eux, afin que tout le monde puisse être jugé selon ses actes. Ça, c'est une chose dont il faut se souvenir. Deuxième chose, ce que l'on croit de la fin détermine l'orientation de notre vie. Les gens qui disent l'enfer, il est comme ça, ou qu'il n'y aura pas de jugement, ils vivent en conséquence de ce qu'ils croient sur l'avenir. Donc si je crois que toutes ces choses n'existent pas, pourquoi est-ce que, comme l'apôtre Paul disait, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, il n'y a rien derrière. Donc quand les gens pensent pour qu'ils vivent comme ils vivent, ils sont obligés de penser qu'il n'y a rien derrière. Celui qui réfléchit vraiment aux choses et qui se dit, mais ça, c'est... il va orienter sa vie différemment. Et c'est pour cela que Jésus dit ces choses, pour que les gens puissent prendre dans le temps présent les décisions qui peuvent changer le cours de leur éternité. Autre chose encore qu'on peut souligner dans ce que Jésus dit dans cette parabole, c'est que c'est dans la vie présente que le destin est déterminé. Ok ? C'est pas le jour du tri que le destin est déterminé. Le jour du tri, c'est la solution, voilà, où les justes et les injustes sont séparés, mais ils sont déjà justes et ils sont déjà injustes à ce moment-là, au moment de la séparation. Et à quel moment se décide cette nature de juste et d'injuste? C'est pendant la vie sur la terre, puisque Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que c'est maintenant qu'il faut recevoir la parabole du semeur, c'est que la parole est semée, et il parle de ceux qui ont le cœur pour recevoir sa parole. Et donc c'est pendant la vie présente que le destin est déterminé. Et c'est exactement ce que Lazare dit à l'homme riche. Vous vous rappelez? Il dit à l'homme riche quoi? Tu as eu tes biens sur la terre. Et Lazare a eu ces mots. Maintenant, tu souffres. Autrement dit, sur la terre, tu as fait ce que tu voulais. Tu as eu tes biens, ta richesse, tu l'as géré comme tu voulais, tu ne t'es pas occupé de Dieu. C'est là qu'il fallait t'occuper des choses qui te permettent maintenant de vivre dans la félicité, dans l'éternité. Ta manière de vivre sur la terre a déterminé ton sort final. C'est sur la terre que ça se décide. Et quand le riche dit à Lazare, envoie Lazare pour qu'il puisse parler à mes frères qui sont sur la terre, afin qu'ils ne viennent pas dans son lieu de... Il appelle ça un lieu de tourment. Hein. Il n'a pas dit que c'est un lieu de joie et de fête. Un lieu de tourment. Et donc, qu'est-ce que Abraham lui dit? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement dit, qu'ils fassent sur la terre ce qui est faux pour qu'ils ne soient pas trouvés dans ce lieu. Donc, c'est sur la terre que se décide. Quand Jésus parle de l'enfer, c'est pour qu'on puisse réfléchir à ces choses et se tourner vraiment vers lui dans notre vie étant sur la terre. Et puis, je termine en disant, ça nous montre, chers frères et sœurs aussi, l'importance d'annoncer l'évangile, mais en ne cachant pas cette réalité du châtiment et de l'enfer. Que Jésus ne l'a pas caché. Nous ne devons pas l'annoncer en le cachant ici. Et si Jésus ne le cache pas, c'est parce qu'il sait aussi que cela produit de l'effet chez ceux qui l'entendent. C'est la vérité. Il veut que cela soit connu. Donc nous ne devons pas non plus
le cacher quand nous annonçons l'Évangile. Donc prêcher l'Évangile, c'est aussi prêcher l'enfer. Il ne faut pas qu'on ait peur de le faire. Il faut le faire de la bonne manière, mais il faut le dire, c'est la vérité. Et on ne peut pas dire autre chose que ce que Jésus dit. On ne peut pas avertir autrement que par la manière avec laquelle Jésus avertit. Et puis, il y a pire que tous les cataclysmes terrestres. Pire que la guerre en Ukraine. Pire que la possibilité qu'un homme déclenche une guerre nucléaire mondiale qui va raser la quasi-totalité de la planète. Pire que les cataclysmes climatiques. Pire que la famine. Pire que les épidémies. Il y a le châtiment éternel qui attend ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est pire que tout. Ça, c'est pire que tout. Et il nous faut être conscients de cela. Ne pas faire comme si ce qui va se passer dans le monde, les pires des choses. Non, la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est la situation de son âme une fois qu'il est mort. Et il faut que ça soit présent dans notre pensée lorsque nous parlons aux autres et lorsque nous vivons aussi pour le Seigneur. Prions. Nous remercions, Seigneur, pour ta parole et nous te demandons de nous aider à saisir encore ces choses. Nous ne pouvons pas dire comme les disciples que nous avons, oui, nous avons tout compris, mais nous te prions que tu nous illumines encore par ton esprit afin que tu nous aides à saisir la profondeur de ces choses et surtout les implications qu'elles doivent avoir dans notre vie. Nous te remercions pour ta vérité, pour les avertissements que tu nous donnes de ce châtiment terrible qui attend ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous te remercions encore, surtout, pour cette grâce que tu nous as faite, cette grâce que tu fais à tous ceux qui croient d'être préservés de cette colère à venir, en se tournant vers toi, Seigneur Jésus, et en recevant pleinement le sacrifice que tu as accompli à la croix du calvaire. Donne-nous d'être fidèles dans l'annonce de ta parole et d'être sensibles au sort de ceux qui ne te connaissent pas, pour la gloire de ton nom. Amen.